Chapitre 5. La petite indienne et les cow-boys. Le monde est une lutte sans fin entre un souvenir et un autre souvenir qui lui est opposé. Haruki Murakami. 1. Le taxi me déposa à l'angle du boulevard Edgar Quinet et de la rue d'Odessa. Coup d'œil à ma montre. Bientôt midi. Dans 10 minutes, les bataillons d'employés qui travaillaient dans le quartier déferleraient et les places au soleil seraient chères. Mais pour quelques instants encore, il était possible d'obtenir une table. J'en trouvai une en terrasse chez Colombine et Arlequin, le café de la place. Je commandai une bouteille d'eau et un ceviche de dorade. Je venais souvent ici pour manger sur le pouce ou pour écrire, et la plupart des serveurs me connaissaient. À toutes les tables et sur les trottoirs, l'été se prolongeait. Lunettes de soleil, manches courtes et jupe légère. Les quelques arbres de la placette ne pouvaient pas lutter face aux cagnards qui écrasaient l'asphalte. Dans le sud, on aurait ouvert les parasols. Mais à Paris, on avait tellement peur que ça ne dure pas, qu'on était prêt à risquer l'insolation. Je fermai les yeux et laissai à mon tour le soleil inonder mon visage. Comme si ce shoot de lumière et de chaleur avait le pouvoir de me remettre les idées en place. J'avais eu longuement Karadec au téléphone. Nous avions échangé nos informations et prévu de nous retrouver ici pour faire le point. En attendant son arrivée, je sortis mon notebook et ouvris mon écran. Pour ordonner mes pensées, j'avais besoin de prendre des notes, d'écrire des dates, de poser des hypothèses sur le papier. Il ne faisait plus aucun doute à présent que la femme que j'aimais n'était pas la personne qu'elle prétendait être. En empruntant 2 pistes différentes, Marc et moi avions réussi à remonter la trace d'Anna, qui ne s'appelait pas Anna, jusqu'à l'automne 2007. Je lançai mon traitement de texte et décidai de synthétiser l'essentiel de nos découvertes. Fin octobre 2007, une jeune fille d'environ 16 ans, venue des États-Unis, débarque à Paris, avec plus de 400 000 euros en cash. Elle cherche à se cacher, trouve refuge dans une chambre de bonne qu'elle loue en liquide à un propriétaire peu scrupuleux. Elle est traumatisée par un événement qu'elle vient de vivre, mais elle est suffisamment dégourdie pour se procurer de faux papiers, d'abord de très mauvaise qualité et plus tard de bien meilleure facture. En décembre, elle se présente dans un établissement catholique, l'institution Sainte-Cécile, où elle réussit à se faire scolariser et à passer son bac en endossant l'identité d'Anna Baker, la nièce de Clotilde Blondel, la directrice du lycée. Cette substitution d'identité est un coup de maître. Clouée dans un fauteuil roulant, vivant dans un foyer pour handicapés, la véritable Anna Baker ne voyage pas, ne conduit pas, ne poursuit pas d'études. En 2008, munie d'une déclaration de perte ou de vol, la fausse Anna se présente à la mairie pour faire refaire son passeport et sa carte d'identité. Dès lors, l'illusion est parfaite. Anna détient de véritables papiers avec sa propre photo et habite pleinement une identité qui n'est pas la sienne. Bien qu'elle possède un numéro de sécurité sociale, elle est prudente et respecte sans doute scrupuleusement certaines règles. Toujours payer elle-même ses consultations médicales et ses médicaments pour que la Sécu ne s'intéresse pas de trop près à elle. Je levai la tête de mon ordinateur, tandis que le serveur apportait mon plat. Je pris une gorgée d'eau et une bouchée de dorade. 2 femmes se partageant la même identité. Le subterfuge mis en place par Clotilde Blondel était osé, mais suffisamment solide pour durer depuis 10 ans. Notre enquête n'avait pas été vaine. Pourtant, à ce stade, elle n'avait soulevé que des questions sans réponse. Je l'ai notée à la volée sur mon écran. Qui est réellement Anna? Où vivait-elle avant d'arriver à Paris? D'où proviennent les 400 000 euros trouvés chez elle? Qui sont les 3 corps carbonisés sur la photo? Pourquoi Anna s'accuse-t-elle de leur mort? Pourquoi a-t-elle disparu juste après avoir commencé à me révéler une partie de la vérité? Où se trouve-t-elle à présent? Machinalement, je ne pus m'empêcher de composer une nouvelle fois son numéro. Pas de miracle. Toujours le message d'accueil que j'avais dû subir 50 fois depuis la veille. C'est alors qu'une idée fusa dans mon esprit. 2. 6 ans plus tôt, alors que j'étais à New York pour des repérages, j'avais perdu mon téléphone portable dans un taxi. Je rentrais à mon hôtel après une soirée au restaurant et je ne m'étais pas aperçu tout de suite de ma gaffe. Le temps que j'en prenne conscience et que j'appelle la compagnie de taxi, il était trop tard. L'un des clients que le chauffeur avait chargé après moi avait trouvé mon portable et s'était bien gardé de le signaler. À tout hasard, je lui envoyais un SMS depuis le téléphone de mon attaché de presse. Une heure plus tard, je reçus un appel d'une personne s'exprimant dans un anglais aléatoire, me proposant de me rendre mon appareil contre la somme de 100 dollars. Cédant à la facilité, j'avais accepté la proposition. Rendez-vous fut pris dans un café de Times Square. Mais à peine étais-je arrivé sur les lieux que mon maître chanteur m'appelait pour me dire que le prix avait changé. Il désirait à présent 500 dollars à lui remettre à une adresse dans le Queens. J'avais alors agi comme j'aurais dû le faire depuis le début. Je racontai mon histoire aux deux premiers flics que je croisais. En quelques minutes, ils tracèrent mon portable grâce à la plateforme de géolocalisation, arrêtèrent mon voleur et me restituèrent mon téléphone. Pourquoi ne pas procéder de la même manière avec celui d'Anna? Parce qu'il est probablement éteint ou que sa batterie est déchargée. Et c'est quand même. Mon ordinateur était toujours ouvert devant moi. Je demandai au serveur le code pour me connecter au Wi-Fi du café, puis me rendis sur le site de cloud computing du fabricant. La première étape ne posait pas de difficulté. Il suffisait de rentrer son identifiant, autrement dit son adresse e-mail. J'inscrivis celle d'Anna, mais butai sur la deuxième marche, son mot de passe. Je ne perdis pas de temps à essayer des codes au petit bonheur la chance. Ce type de truc ne marche que dans les films ou les séries télé. Je cliquai sur le lien mot de passe oublié qui ouvrit une nouvelle page web m'invitant à répondre aux deux questions de sécurité qu'Anna avait paramétrées lors de la création de son identifiant. Quel était le modèle de votre premier véhicule? Quel est le premier film que vous avez vu au cinéma? La première question était facile. Anna n'avait jamais possédé qu'une seule voiture dans sa vie, une Mini couleur marron glacé qu'elle avait achetée d'occasion 2 ans auparavant. Même si elle ne l'utilisait pas beaucoup, elle adorait ce petit cabriolet. Chaque fois qu'elle en parlait, elle ne disait pas « la Mini » ou « le cabriolet », mais « la Mini Cooper ». C'est donc cette réponse que je tapais dans la case correspondante. Et j'étais sûr de mon coup. Place à la seconde question. Nous n'étions pas toujours d'accord côté cinéma. J'aimais Tarantino, les frères Cohen, Brian De Palma, les vieux thrillers et les pépites de série B. Elle préférait des trucs plus intello, tendance Télérama. Michael Haneke, les frères Dardenne, Abdelatif Kechiche, Fatih Akin, Christophe Kieślowski. Cela ne m'avançait guère. Rares sont les enfants qui entament leur initiation cinématographique par le ruban blanc ou la double vie de Véronique. Je pris le temps de la réflexion. À quel âge pouvait-on emmener ses enfants au cinéma? Je me souvenais très bien de ma première fois. L'été 1980, Bambi, au cinéma L'Olympia, rue d'Antibes, à Cannes. J'avais 6 ans et j'avais prétendu avoir une poussière dans l'œil pour justifier mes pleurs au moment de la mort de la mère du Fan. Salaud de Walt Disney. Anna avait aujourd'hui 25 ans. Si elle avait vu son premier film à 6 ans, c'était en 1997. Je consultais les succès de cette année-là sur Wikipédia et un film me sauta aux yeux. Titanic. Succès planétaire. Pas mal de gamines de l'époque avaient dû tanner leurs parents pour aller voir Léo. Persuadé d'avoir trouvé, je tapai le titre du film à la vitesse de l'éclair, validé, et... Les réponses que vous avez fournies ne correspondent pas à celles qui figurent dans nos dossiers. Veuillez vérifier vos informations personnelles et réessayer. Déception. Je m'étais enflammé trop vite, et à présent il ne me restait plus que 2 essais avant que le système ne se bloque. Sans me précipiter, je posai les choses à plat. Anna et moi n'étions pas de la même génération. Sans doute était-elle allée au cinéma avant ses 6 ans, mais à quel âge? Google. Mes doigts sur le clavier. À quel âge emmener ses enfants au cinéma? Des dizaines de pages s'affichèrent, essentiellement des forums consacrés à la famille et des magazines féminins. Je parcourus les premiers sites. Un consensus semblait se dégager. 2 ans, c'était trop tôt, mais on pouvait tenter le coup à 3 ou 4 ans. Retour à Wikipédia. 1994. Anna a 3 ans. Et ses parents l'emmènent voir Le Roi Lion, le plus gros succès pour enfants de cette année-là. Nouvel essai et nouvel échec. Bordel! L'horizon s'obscurcissait. Plus de droit à l'erreur. Je m'étais fait des illusions. Le jeu paraissait facile, mais il y avait trop de possibilités, trop de paramètres à prendre en compte. Jamais je ne parviendrai à récupérer le mot de passe d'Anna. Un dernier essai pour la gloire. 1995. Anna a 4 ans. Je fermais les yeux pour essayer de me l'imaginer à cet âge. Une petite fille apparut dans mon esprit. Peau mate, très fin, regard émeraude, presque translucide, sourire timide. C'est la première fois qu'elle va au cinéma. Et ses parents l'emmènent voir... Nouveau coup d'œil à l'encyclopédie en ligne. Cette année-là, c'est le génial Toy Story qui a écrasé le box-office. Je tapais la réponse et posais le doigt sur la touche pour valider. Avant d'appuyer, je fermais les yeux une dernière fois. La petite fille était toujours là. Natte noire, salopette en jean, sweatshirt coloré, chaussures immaculées. Elle est contente, parce que ses parents l'emmènent voir Toy Story. Non, ça ne cadrait pas avec la Anna que je connaissais. Je revins en arrière et relançai le film. Noël 1995, Anna a presque 5 ans. C'est la première fois qu'elle va au cinéma, et c'est elle qui a choisi le film. Parce qu'elle est déjà intelligente et indépendante. Elle sait ce qu'elle veut. Un beau dessin animé dans lequel elle pourra s'identifier à l'héroïne et apprendre des choses. À nouveau, je parcourus la liste des succès de l'année, guettant la voix intérieure de la petite fille. Pocahontas, la fille de la tribu des Powhatans, à qui les dessinateurs de Disney avaient donné les traits de Naomi Campbell. Un frisson me transperça. Avant même de valider la réponse, je fus persuadé d'avoir trouvé. J'entrai les 10 lettres magiques et une nouvelle page web apparut, me permettant de reconfigurer le mot de passe. Yes ! Cette fois, c'était la bonne. Je lançai l'application de géolocalisation du téléphone et au bout de quelques secondes, un point bleu pâle clignota sur mon écran. 3. Mes mains tremblaient. Mon cœur cognait. J'avais eu raison de persévérer. Un message m'indiquait que le téléphone d'Anna était hors ligne, mais que le système gardait en mémoire pendant 24 heures la dernière position connue de l'appareil. Les charmes détestables de la surveillance globale. Je fixai le cercle qui scintillait au milieu de la Seine-Saint-Denis. À première vue, une sorte de zone industrielle entre Stein et Aulnay-sous-Bois. J'écrivis un SMS à Karadec. « Tu es encore loin ?» Auquel il répondit dans la foulée. « Boulevard Saint-Germain. Pourquoi ?»« Grouille, j'ai une piste sérieuse. » En l'attendant, je fis une copie d'écran et notai l'adresse qui s'affichait. Avenue du Plateau, Stein, Île-de-France. Puis je basculai en mode satellite et zoomai au maximum. Vu du ciel, le bâtiment qui m'intéressait ressemblait à un gigantesque bloc de parpaing posé au milieu des friches. En quelques clics, je parvins à identifier précisément l'endroit. Une entreprise de garde-meubles. Je me mordis la lèvre. Des entrepôts en pleine banlieue, tout ça n'augurait rien de bon. Un coup de klaxon lointain mais prolongé, plus proche d'un barrissement d'éléphant que d'un avertisseur sonore, secoua la terrasse. Je levai les yeux, posai 2 billets sur la table, remballai mes affaires et sautai dans le vieux Range Rover de Karadec qui déboulait de la rue de Lambre.